Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de l'histoire de Montréal, une série qui est consacrée aux grands personnages qui ont marqué l'histoire de cette grande cité québécoise tout au long donc, du temps, dans le cadre évidemment du 375e anniversaire de Montréal. Ce soir, c'est Honoré Beaugrand qui est à l'honneur. Honoré Beaugrand, qui est un personnage qui, par sa vie, son destin, ses idées, tranche complètement avec cette image un peu caricaturale du Canadien français vivant dans le fin fond de sa campagne, qui n'a jamais voyagé, qui était un peu à genoux devant son curé. Cette image un peu caricaturale qui occupe encore une place trop importante peut-être dans notre imaginaire collectif. Honoré Beaugrand, c'est un personnage d'abord qui est né en 1848, l'année du Printemps des Peuples, et qui est mort en 1906. Honoré Beaugrand, c'est un personnage qui a vraiment le plus de sa génération, qui a le plus voyagé. En 1892, il s'offre un voyage à travers le monde, sur les 5 continents, au coût de 600 $. Il fait ça avec sa femme. C'est un personnage qui parle évidemment un excellent français, qui écrit un excellent français, il s'en fait une fierté. C'est un francophile, il adore la France, il adore la culture française. Il parle aussi très, très bien anglais, puisqu'il a vécu plus de 10 ans aux États-Unis. Et il parle même espagnol, puisqu'en 1865, on le retrouve au Mexique. C'est un volontaire, un soldat volontaire qui s'engage sous les drapeaux français pour, avec cette ambition qu'avait Louis-Napoléon Bonaparte à l'époque, d'annexer le Mexique dans son empire. C'est une aventure absolument délirante, mais qui est absolument fascinante et qu'on va vous raconter un peu ce soir. Honoré Beaugrand s'est fait connaître comme un journaliste de combat. Il s'est fait connaître aussi comme un patron de presse. Il a fondé le journal La Patrie en 1879, un journal qui a été important à la fin du 19e siècle et aussi par la suite. Un journal qui a littéralement fait sa fortune au plan des idées, au plan de la reconnaissance, puisque ce journal a été le véhicule de ses idées républicaines qui faisaient grincer des dents bien des ultramontains catholiques à l'époque, et aussi a fait sa fortune au plan matériel, puisqu'il est devenu, grâce à ce journal, un homme aisé, un grand bourgeois, avec tout ce que ça comporte de vie mondaine, de reconnaissance sociale. Il a été un notable, il recevait beaucoup avec sa femme, et il est devenu donc, un peu par un concours de circonstances, à cause de cette notoriété, il est devenu maire de Montréal en 1885, une année extrêmement tourmentée. On va tenter de voir pourquoi. Et en plus d'avoir été un homme d'affaires, en plus d'avoir été un journaliste, il a été aussi un auteur. Il nous laisse notamment une œuvre, Jeanne la fileuse, qui raconte l'exil des Canadiens français aux États-Unis. Donc, pour nous parler de cette vie assez incroyable, qui est une véritable épopée, pour nous parler de cette vie, nous avons invité son biographe. Son biographe, qui est un sociologue, un professeur à l'Université de Concordia, qui a publié de nombreux ouvrages, notamment en histoire du Québec, et notamment sur cette période, la deuxième partie du 19e siècle, connaît très bien cette période. Et sa biographie d'Honoré Beaugrand s'est méritée le prix littéraire du gouverneur général du Canada. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement mon collègue et mon ami, Jean-Philippe Warren. Bienvenue.
Merci.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Si je vous demandais, Jean-Philippe, de nous résumer la vie, l'œuvre d'Honoré Beaugrand en un mot ou une formule, quelle serait cette formule?
Ce serait assez difficile de résumer en un seul mot la vie d'un homme qui a eu une biographie aussi agitée, aussi mouvementée, mais si j'avais à me commettre, je dirais que c'est le mot l'audace. C'est un audacieux. C'est un homme qui a toujours voulu aller plus loin, aller au bout de ses convictions, et il a confirmé la vérité du proverbe qui dit que la fortune sourit aux audacieux, parce que dans ce Québec qu'on disait replié sur lui-même, il a réussi à s'établir comme un homme à la fois aisé par sa fortune, mais aussi un homme d'une intégrité sans faille. Et donc, oui, je dirais que l'audace résume à son meilleur la trajectoire de cet homme du 19e siècle.
Parlez-nous des origines sociales, familiales d'Honoré Beaugrand.
Alors, Honoré Beaugrand a été destiné, on pourrait dire presque, je n'aime pas utiliser l'expression de destin, mais on pourrait presque croire qu'il était destiné à une grande carrière parce qu'il était le fils de deux lignées, d'abord celle de son grand-père maternel et ensuite de celle de son grand-père paternel. Son grand-père maternel, Louis Marion, était un homme d'affaires de l'endroit, et son grand-père paternel, lui, était un navigateur qui possédait plusieurs navires. C'était des gens très riches, c'était des bourgeois. Et d'ailleurs, les deux vont finir rentiers à la fin de leur vie. C'était finalement des officiers de milice. Donc, à tous ces titres, on pourrait dire que Honoré Beaugrand a grandi dans ce qu'on appelait les premiers de paroisse, hein, la crème de la crème de sa société. En plus de ça, ces gens-là étaient des rouges, on en reparlera sans doute.
Oui, oui.
C'était des gens de grande conviction qui avaient participé à la révolte de 1837-1838. C'était des patriotes, c'était des disciples de Louis-Joseph Papineau. Et ces conversations-là autour du républicanisme, autour de la nécessité de se débarrasser une fois pour toutes de la monarchie, de faire du peuple canadien, un peuple libre, ces discussions-là devaient souvent animer les soirées chez les Beaugrand. On a très peu d'informations sur ses lectures personnelles, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a grandi dans un milieu qui croyait fortement aux Lumières et à tous les auteurs qui étaient associés au siècle des Lumières. Donc, des auteurs qui, en philosophie, en sciences politiques, dans le domaine du droit, dans le domaine de la littérature, avancer des idées qui allaient dans le sens d'une plus grande ouverture, d'une plus grande liberté, d'une plus grande permissivité, d'une plus grande tolérance. Et ça, on va le retrouver, évidemment, lorsqu'il va être à l'Honoré, parce qu'il va s'abonner notamment à des revues qui vont refléter la nécessité pour le peuple canadien-français de bâtir une littérature, mais une littérature qui soit à la fois alimentée par le terroir, alimentée par les traditions, mais aussi ouverte sur le vaste monde.
Mm-hmm. Alors, quand on pense à Honoré Beaugrand, pour peu qu'on connaisse un peu cette histoire ou ce personnage, tout de suite vient à l'esprit que c'est un rouge, c'est plutôt un anticlérical, même un franc-maçon, on en reparlera. Et on apprend dans votre biographie qu'il a songé se faire clair de Saint-Viateur.
Alors ça, c'est étonnant.
Très,
hein?
C'est étonnant.
Étonnant pour quelqu'un qui connaît son parcours qui va suivre. Mais ce n'est pas trop étonnant dans le contexte de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore ce clash qui va se révéler par la suite entre les ultramontains et ultramontés d'un côté et de l'autre côté, les rouges plus radicaux. Il y avait au contraire une bonne entente à l'Honoré entre le clergé qui était là et puis les gens qui étaient membres de l'élite régionale. La même chose au Collège des Clercs Viateurs qui était invité régulièrement à présider les séances de l'Institut canadien de Joliette.
Oui. Ah oui.
Et donc, il y avait une complicité, il y avait une cordialité, il y avait des relations plutôt amicales entre les religieux d'un côté et les hommes politiques du Parti libéral, du Parti patriote, du Parti rouge de l'autre. C'est par la suite que les choses vont s'envenimer. Mais à l'époque où Beaugrand a grandi, ça semblait naturel pour quelqu'un qui voulait le salut de sa nationalité de pouvoir aussi s'investir dans les institutions religieuses. D'autant plus que Beaugrand était un combatif. Hein, c'est quelque chose qu'il avait en lui, cette idée de lutter, de combattre. Et à l'époque, l'Église menait un combat. Elle menait un combat, bien entendu, contre les forces du mal dans l'imaginaire religieux du 19e siècle. Mais elle menait aussi un combat réel parce que au moment où Beaugrand étudie au Collège de Joliette, la guerre fait rage en Italie entre les États pontificaux et les armées de Garibaldi. Et donc, Beaugrand pouvait se projeter un peu dans cet univers où on était appelé à se sacrifier, à devenir un héros, sinon un soldat du Christ. Donc, cette idée de croisée, je pense, lui plaisait beaucoup.
Lorsqu'il termine son collège, je pense qu'un peu de mise en contexte, quelles sont les carrières qui s'offrent à un jeune homme comme Honoré Beaugrand, au milieu des années 1860?
On est en 1865 et les perspectives de carrière sont médiocres.
Ouais.
Beaugrand arrive dans la vie active entre 1800, l'apparition de Jean Rivard, l'ouvrage d'Antoine Gérin-Lajoie, entre 1862 et 1864. Il arrive donc à la vie active au moment où on décrit les opportunités de travail pour un jeune Canadien-Français en des termes les plus sombres. On a l'impression que les carrières libérales sont bouchées et qu'il n'y a pas grand-chose à espérer pour un jeune de son âge. Et d'ailleurs, on sent qu'à ce moment-là, il va sans doute vivoter. On a peu d'informations sur ce qu'il fait, mais les quelques brides là, qu'on retrouve dans les archives de l'époque nous informent qu'il a sans doute été matelot, sinon cook, donc cuistot, sur les navires de son père pendant quelque temps. Et il va finir par arriver à Montréal, où il va s'établir et vouloir devenir soldat pour cette raison que la solde du soldat l'intéresse beaucoup, vu qu'il n'a pas beaucoup d'autres ouverture professionnelle.
En même temps, il y avait une sorte d'attirance pour la carrière des armes, vous l'avez dit, dans sa famille.
Il y avait, oui, il venait d'une grande famille de militaires. Évidemment qu'il y avait ce prestige associé à l'habit de soldat, et il voulait aussi pouvoir démontrer sa bravoure, comme l'avaient fait ses parents et ses grands-parents, sinon ses ancêtres. On sait que dans sa famille, on parlait régulièrement des exploits des Canadiens français de la Nouvelle-France dans leur lutte contre les Anglais, leur lutte contre les Américains, les luttes contre les Iroquois. Donc, c'est sans doute ces légendes un peu enjolivées là, ont bercé sa jeunesse. Et lorsqu'il arrive jeune adulte, la carrière de soldat le tente beaucoup. Mm-hmm. Mais ça le tente aussi parce qu'il y a une solde quand même qui n'est pas négligeable. Oui. Il y a cette idée qu'on va pouvoir recevoir une bonne paye. Et il y a des écoles militaires pour les officiers qui viennent de s'ouvrir parce que le gouvernement conservateur a décidé d'investir afin de protéger les frontières canadiennes au moment où s'achève la guerre civile américaine. Et donc, il va vouloir entrer dans une école militaire pour devenir officier, notamment parce qu'on offre comme récompense pour un certificat de deuxième classe 50 $ et pour un certificat de première classe 100 $. Mmh. C'est énormément d'argent.
Avant de parler de son engagement au Mexique, une chose qui revient beaucoup, c'est quelqu'un qui adore la France. Vous avez une expression, c'est quelqu'un qui est cosmopolite d'esprit, mais français de cœur.
Ah, c'est un francophile invétéré et il a une fascination pour la France. On peut croire que, vu que sa famille s'est établie en Nouvelle-France seulement en 1740, hein, la distance qui le sépare de la France par sa généalogie n'est pas très grande et que donc il a un attachement particulier.
Filial.
Oui, très, très proche, une proximité, on pourrait naturelle, avec la mère patrie. Il y a aussi qu'à l'époque, on est en 1865, il y a plusieurs Canadiens français qui n'ont pas encore abandonné l'idée que la France va revenir. Hein, on en parle dans les campagnes. Les nôtres vont revenir. Ils vont reconquérir le territoire perdu. Ils vont faire de cette ancienne Nouvelle-France un endroit où les francophones seront maîtres chez eux. Et donc, il y a ce rêve, ce fantasme un peu d'une France qui rétablirait ses droits en Amérique du Nord. Il y a aussi, évidemment, que Beaugrand croit que la France, c'est
Un phare,
oui, c'est ça. C'est vraiment le modèle de la civilisation occidentale. Il a l'impression que la France a perfectionné les arts dans à peu près tous les domaines. C'est en France qu'on retrouve les plus grands écrivains, c'est en France qu'on retrouve les plus grands philosophes, c'est en France qu'on retrouve la technologie de pointe la plus avancée. Il y a vraiment cette idée que la France, elle est à l'avant-garde du progrès humain. Et donc, il a les regards braqués sur sa mère patrie à cause d'attachements personnels, à cause d'attachements collectifs, mais aussi à cause de cette conviction que la France incarne ce qu'il y a de mieux dans le monde.
Attiré par la carrière des armes, francophile, on le retrouve au Mexique. Qu'est-ce que la France fait au Mexique en 1865?
Alors, c'est une histoire passablement compliquée. Et, je vous épargne les détails. Mais disons qu'il y a eu un changement de régime. Les républicains ont pris le pouvoir et ont suspendu le paiement de la dette qu'ils devaient aux puissances européennes. L'Angleterre, l'Espagne, la France, voulant recouvrir l'argent qu'ils ont perdu, décide d'envoyer un corps expéditionnaire à Veracruz, qui est le grand port du Mexique, afin de percevoir des droits de douane. Donc, ils envoient donc des soldats et la France, elle, secrètement, sans en parler à l'Espagne, sans en parler à la Grande-Bretagne, décide de pousser le projet un peu plus loin et de faire de tout le Mexique une base pour accroître son empire en Amérique. Et donc, on a ce projet étrange d'un duc d'Autriche, Maximilien, qui est placé par Napoléon III sur le trône du Mexique, où il est accueilli au départ dans un vaste triomphe. Hein. On a l'impression que oui, que l'entreprise va être un succès, que c'est très facile, que le peuple-là n'attend simplement que les armées françaises pour saluer leur libération, alors qu'on voit, c'est pour se voir assez rapidement, que les choses se retournent contre le projet français.
Alors, qu'est-ce que Beaugrand fait concrètement? Là, une
fois alors, Beaugrand est attiré par les armes. Il cherche désespérément un endroit pour montrer sa bravoure. Il veut l'odeur de la poudre, le son des canons, et d'autres que lui vont chercher des champs de bataille un peu partout dans le monde. Un de ses amis, Gustave Drolet, notamment, va vouloir faire la guerre, notamment au Congo. On se cherche désespérément un endroit pour se battre.
D'autres iront défendre les armées pontificales.
Pontificales, exactement. Des gens de son collège de Joliette. Alors, il décide de partir avec quelques autres. Il n'est pas seul. Il décide de partir pour le Mexique. Et là-bas, il intègre un corps qui est le plus dangereux de tous les corps et régiments de l'armée française. C'est celui du colonel Dupin. C'est une contre-guérilla. Pourquoi une contre-guérilla au Mexique à l'époque? On est en 1865. C'est parce que l'armée mexicaine, comprenant qu'elle n'a aucune chance de vaincre une armée française supérieure en nombre, il y a 60 000 soldats français qui sont envoyés au Mexique, supérieure pour ce qui est de la stratégie militaire, supérieure pour ce qui est de l'artillerie et de la technologie militaire, eh bien, commence à organiser des petites embuscades, talonne l'armée française, pilonne les positions de nuit, saccage les communications, organise, bref, une guérilla. Et pour réagir contre cette guérilla que lui fait l'armée mexicaine, la France va organiser un détachement qui va pratiquer la contre-guérilla. La contre-guérilla, c'est quoi? C'est simple. Le colonel Dupin l'explique assez sommairement. Si vous tuez un de mes hommes, je tue 20 des vôtres. Je viole vos femmes, je massacre vos enfants, je brûle vos villages, je pille vos récoltes. Et donc, c'est ce régiment-là que va intégrer Beaugrand. Pourquoi? D'abord, parce que c'est celui où, évidemment, on se bat le plus. Ça devient intéressant pour un soldat dans l'âme comme lui. Mais aussi parce que c'est celui où il y a la solde est la meilleure. Ça paie très bien, beaucoup plus que les autres, parce que le danger est grand. Et qui dit grand danger, dit aussi grande perte d'hommes. Et donc, l'avancement est plus rapide. Et donc, il va faire partie de cette contre-guérilla qui va laisser derrière elle une réputation terrible, absolument épouvantable. Et d'ailleurs, le colonel Dupin va mourir dans la honte et le déshonneur. La France ne va jamais se remettre de la réputation que lui a bâtie cette contre-guérilla au Mexique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'encore aujourd'hui, mais depuis 150 ans, la France n'a à peu près jamais parlé de cette expédition qui reste comme une tache dans son histoire. Un peu, je dirais, comme parallèle, l'invasion des Américains au Vietnam, c'est un peu la même chose qui se passe là-bas, c'est-à-dire qu'une armée qui est supérieure par la technologie, supérieure par l'efficacité de son déploiement militaire, va être vaincue par une armée qui est beaucoup moins équipée, mais qui a pour elle l'avantage de pouvoir se cacher dans l'ombre et intégrer l'anonymat des villages.
Après quoi? Combien de temps s'est
passé? Un an et demi.
Un an et demi, à la suite de quoi, donc, il est relaxé? Parce que c'est la guerre est terminée.
La guerre est terminée. Oui. Alors, au moment où il arrive au Mexique, Beaugrand se dépêche de se rendre au Mexique parce que il est convaincu que la guerre achève parce que l'armée française va être victorieuse. Donc, il se dépêche pour récolter quelques lauriers de la victoire. Ouais. Et sur place, il se rend compte que ce qu'on dit de la guerre à Montréal n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain et qu'on l'armée française est dans un bourbier épouvantable. Et donc, après quelques semaines seulement, déjà l'issue est claire, l'armée française est foutue et Napoléon III, qui le sait, va commencer à rapatrier ses hommes. Et après un an et demi, donc en mars 1867, l'ensemble de l'armée française va être rapatrié à Toulon. Et donc, Beaugrand atterrit à Toulon avec le reste des hommes et il va passer 9 mois en France. On ne sait pas trop ce qu'il y fait, mais certainement, il découvre pour la première fois cette France à laquelle il a tant rêvé dans les années passées. Il la voit, il la contemple et il va l'admirer encore plus. Cette fascination qu'il avait en la connaissant peu va seulement augmenter par son séjour là-bas pendant quelques mois.
Donc, il n'y aura pas de déception, c'est souvent le cas. On voit la réalité, on est déçu, mais ce n'est pas son cas.
Ah non, au contraire, c'est le moment de l'exposition universelle de 1867. Et donc, il y a toutes sortes d'activités qui sont planifiées à Paris. Et on peut croire, on le devine, on ne le sait pas, mais on peut croire que Beaugrand passe beaucoup de temps là-bas pour fréquenter le théâtre, pour aller dans les restaurants, pour découvrir tout ce que la société française a à lui offrir.
Et ensuite, il revient, mais aux États-Unis.
Ah oui, alors il revient aux États-Unis, on s'en doute vers décembre 1867. Il revient aux États-Unis, alors il ne s'établit pas à Montréal, ce qu'on aurait pu penser. Il va d'abord passer quelques temps à New York, très bref.
Il bouge beaucoup pendant quelques années.
Ensuite de ça, il se rend à la Nouvelle-Orléans, où il va, on dit, avoir ses premières expériences de journalisme dans un petit journal qui s'appelle L'Abeille, parce qu'il y a plusieurs publications françaises. C'est la Louisiane reste française encore. Il y a plusieurs publications donc en français, et il aurait tâté du journalisme à ce moment-là. Il est aussi pelleteur de charbon sur les quais de la Nouvelle-Orléans. Il va être comptable pour une compagnie de chemin de fer au Mexique, et ensuite, il va intégrer en 1870 l'armée américaine, à la base navale de Pensacola, en Floride, tout près de Mobile. Donc, il va faire 36 métiers pendant ces années, ce qui n'est pas très différent de plusieurs de ses camarades. Hein. C'est un parcours qui est curieusement assez fréquent. On fait qui un peu de quête de pommes, qui un peu de travail en boulangerie, etc. On expérimente toutes sortes de choses. Et Beaugrand, donc, va finir en 1871 par s'établir à Philadelphie d'abord comme pâtissier. Et puis ensuite de ça, après quelques semaines, il va déménager à nouveau pour s'établir un peu plus définitivement à Fall River, où il va être violoneux et peintre d'enseigne.
Vous voyez, hein? Un homme vraiment qui avait toute une palette.
Il disait « la peinture tâche, mais n'entache pas
». Et c'est après ces mille métiers qu'il va faire sa niche dans le journalisme.
En 1873, alors on ne sait pas trop pourquoi, mais sans doute parce qu'il a toujours rêvé d'être écrivain, c'est quelque chose qui l'a toujours fasciné. En 1873, il va fonder son premier journal, qui est un hebdomadaire, qu'il va appeler L'Écho du Canada. L'Écho du Canada, pourquoi? Écho du Canada, parce qu'évidemment, on donne des nouvelles du Canada, mais aussi Écho du Canada dans le sens de Petit Canada à Fall River, comme il y a des petites Italies un peu partout en Amérique du Nord, comme il y a des Chinatown un peu partout en Amérique du Nord. Il va y avoir en Nouvelle-Angleterre, partout où s'établissent des Canadiens français, des Petits Canada, et plusieurs de ces Petits Canada vont avoir leurs journaux. L'Écho du Canada, donc, est un des pionniers de ces innombrables journaux canadiens français qui vont être fondés dans la deuxième moitié du 19e siècle. On va d'ailleurs dire que les Canadiens français ont la manie des journaux tellement ils en publient. Mmh. Évidemment, ces journaux ont une existence souvent éphémère, une existence précaire, mais Beaugrand, parce qu'il est habile avec la comptabilité, c'est quelqu'un qui manie très bien les chiffres, et c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a la plume facile, va réussir à faire survivre son journal plus longtemps que les autres.
Mmh. Et il va revenir de cette expérience, en tout cas, durant cette expérience, va lui inspirer ce livre, « Jeanne la fileuse ». Racontez-nous en gros l'histoire de ce livre.
C'est un très mauvais livre. Ouais. Il y a un des critiques qui a dit que c'est un livre ennuyant comme la pluie. Hein. Ce qu'il faut comprendre du roman, c'est plutôt la morale qu'on en tire. D'ailleurs, mm-hmm. Beaugrand est très clair là-dessus. Il a dit « J'ai écrit ce roman parce que je ne voulais pas publier un pamphlet. Mm. » Et je l'ai écrit à la place d'un pamphlet, mais pour dire à peu près la même chose. C'est quoi qu'il raconte là-dedans? Il raconte qu'avant la conquête britannique, les Canadiens formaient un peuple prospère et heureux, que la conquête a été un désastre pour eux, que 1837 était une rébellion juste qui visait à redonner les droits fondamentaux à la collectivité, que si les Canadiens français émigrent par dizaines de milliers aux États-Unis pour y trouver de meilleurs emplois, la faute en revient à une clique corrompue de gouvernants plus ou moins mafieux, et qu'ils y trouvent, donc aux États-Unis, une fois leur immigration, des conditions de vie qui sont éminemment plus favorables que celles qu'ils ont quittées. Donc, la morale du roman est très claire. C'est une charge en règle contre, notamment, Sir Georges-Étienne Cartier et ses acolytes.
Mmh. Autrement dit, si ces Canadiens français quittent vers les États-Unis, alors que dans la presse de l'époque, on les critiquait, on disait hein, « vous abandonnez votre patrie », ils disaient « ils sont un peu victimes des circonstances
». Pour Beaugrand, c'est très clair que la raison pour laquelle les gens quittent le Québec, ce n'est pas parce qu'ils sont fatigués de voir les mêmes paysages, ce n'est pas parce qu'ils ont la bougeotte et l'envie des voyages, c'est parce qu'ils vivent dans la misère. Mmh. Et qu'afin de trouver des conditions meilleures, des espoirs pour eux-mêmes et leur famille, ils viennent s'établir aux États-Unis. Et ils y trouvent, évidemment,
des salaires qui sont beaucoup plus décents et un niveau de vie qui est sans comparaison avec celui qu'ils ont quitté. Et la faute en revient, c'est là la faute en revient à l'incurie des gouvernements. Mmh. Et ces gouvernements-là, ils ont comme particularité d'avoir été, au Québec, comme au fédéral, d'avoir été des gouvernements conservateurs. Mmh. Et pour Beaugrand, le choix ne pourrait pas être plus simple, ne pourrait pas être plus limpide. Soit on accepte d'être gouverné par des membres d'une élite corrompue et incompétente, et on a les résultats donc que l'on observe au Canada de son époque, ou soit on donne un coup de barre, hein, on se ressaisit, et puis on décide de changer ces gens pour des gens qui ont à cœur la prospérité, le développement de la collectivité. C'est pourquoi son deuxième journal, La République, qu'il va fonder après avoir vendu l'Écho du Canada, s'appelle justement La République. La République, pour Beaugrand, c'est trois choses. C'est d'abord le Parti républicain. Alors, c'est curieux aujourd'hui de dire que Beaugrand était en faveur du Parti républicain, connaissant ce qui est arrivé du Parti républicain dans les dernières années. Mais à l'époque, le Parti républicain, c'était le parti de Lincoln. C'est un parti qui avait lutté contre l'esclavage. C'est un parti de la liberté, du progrès, de l'égalité, de la tolérance. Pour Beaugrand, la République, c'était aussi le Parti républicain. Mais c'était plus que ça. C'était la République américaine. Une République où, disait-il, les Canadiens français sont mieux accueillis que lorsqu'ils restent au Canada. Au Canada, ils sont constamment en butte, au mépris, à la morgue de leurs compatriotes anglais qui saisissent chaque occasion pour les marginaliser, les refouler, les exploiter. Aux États-Unis, ils sont vus comme des personnes, indépendamment de leur culture, indépendamment de leur tradition et de leurs valeurs. Et donc, il est beaucoup plus facile pour un Canadien français, dit Beaugrand, de s'installer aux États-Unis et de réussir que s'il reste au Canada. Ensuite, la République, c'est le Parti républicain, c'est la République américaine, mais c'est aussi la République française qui vient tout juste d'être établie. On vient d'instaurer la Troisième République en France. Et cette République, elle a fait deux choses. Elle s'est d'abord débarrassée de la monarchie, qui ne peut à jamais qu'être corrompue et source de gabégie, de gaspillage. Et puis ensuite, elle a surtout réalisé la séparation de l'autel et du trône, donc de l'État et de l'Église. Et pour Beaugrand, c'est justement la chose que l'on devrait faire au Canada. Mm-hmm. Donc, la République, ce sont ces trois programmes qui fixent pour à peu près jusqu'à la fin ce que va être la vision d'Honoré Beaugrand.
C'est aux États-Unis qu'il devient franc-maçon. Un mot sur cette organisation et sur son rôle pour...
Beaugrand va faire deux apostasies qui sont considérées comme très graves par ses compatriotes. La première, il marie une méthodiste américaine anglaise. Ça, c'est difficilement pardonnable. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il va entrer dans une loge franc-maçonne. Pourquoi une loge franc-maçonne? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les Canadiens français de l'époque, ça c'est très curieux, mais ils sont admiratifs et un peu envieux des collectivités ou des groupes qui disposent d'organisations secrètes. La patente, hein, qui est l'ordre de Jacques Cartier, n'existe pas encore, ça va aller beaucoup plus tard. Et donc, ils ont à leur disposition à peu près rien où ils peuvent aller comme organisation secrète. La deuxième raison pour infiltrer une loge maçonnique, c'est que c'est d'abord un club social. Hein. On s'assoit, on discute, on parle affaires. C'est l'occasion de faire des contacts, d'entrer en relation, de brasser de la business. Et donc, ça, c'est la deuxième raison pour Beaugrand d'entrer dans une loge maçonnique. C'est important comme homme d'affaires, simplement, d'appartenir à une loge. Et finalement, c'est le programme des francs-maçons. Parce que le programme des francs-maçons est basé, entre autres choses, sur la nécessité de promouvoir une éducation laïque pour tous. Alors, si l'Église peut pardonner de faire partie d'une organisation secrète, si l'Église peut, à la limite, pardonner de faire partie d'un club social, jamais elle ne pourra accepter qu'on fasse la promotion d'une éducation laïque et universelle. Mmh. Et donc, à partir de là, Beaugrand va toujours avoir à se défendre d'être un bon Canadien français, puisque à l'époque, un bon Canadien français, ça va de soi de aussi être un bon catholique.
Il revient au Québec en 1878. Pourquoi? Pourquoi ce retour? Il aurait très bien pu faire une belle carrière, comme plein d'autres Canadiens français, s'installer aux États-Unis. Pourquoi revient-il?
Je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est que ça ne va pas si bien à Fall River en 1878. Il y a des grèves à répétition. Depuis plusieurs mois, l'industrie est paralysée. Et donc, les affaires de la République en souffrent. Ensuite, il y a un gouvernement libéral qui a été élu à Ottawa. Ouais. Et il y en a un bientôt qui va être élu au provincial. On a besoin de Beaugrand. On lui demande de revenir. On lui demande de s'installer à Ottawa où on va lui donner un poste de surnuméraire, une sinécure pour pouvoir continuer à faire ses choses.
Donc, le patronage joue pour lui.
Le patronage, absolument, joue pour lui, pour une fois. Et il va, dans ses temps libres, donc, dont il dispose, fonder un journal, un nouveau journal, qui va s'appeler Le Fédéral, qui vise la défense du gouvernement libéral à Ottawa. Et très rapidement, après seulement quelques mois, il va vendre ce journal à nouveau pour s'installer à Montréal et faire partie de l'équipe rédactionnelle du National, qui est le grand journal libéral du Québec. Mmh. Donc, les opportunités pour lui de faire valoir ses talents sont bien plus grands à Montréal à l'époque qu'ils ne pouvaient l'être à Fall River.
Et il fonde, avec d'autres, mais il est un des personnages principaux, ils font La Patrie. Avant d'avancer un peu plus loin, ce qu'on découvre dans votre biographie, ce que j'ai appris, c'est cette industrie qui est en mutation à ce moment-là. Hein? Dans le fond, non seulement crée-t-il un journal, mais il crée presque un modèle d'affaires. Pourriez-vous nous l'expliquer un peu?
Alors, il a fait ses premières expériences de journalisme aux États-Unis et ça compte beaucoup. Son apprentissage est un apprentissage américain. Et plusieurs des recettes qui vont faire son succès, il les a apprises d'abord au sud de la frontière avant de les importer à Montréal. À l'époque, un journal dure très peu de temps. La durée de vie d'un journal dépasse rarement plus qu'une année. On fait faillite à répétition. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à maintenir le journal sinon qu'avec un patronage, sinon qu'avec un mécénat. Et qui dit mécénat? Dit évidemment certains intérêts en jeu. On ne soutient pas un journal pour le plaisir de la chose. C'est parce qu'on a un programme, une plateforme, une idéologie, un message à passer à travers le journal. Et donc, les journaux deviennent, au Canada français encore plus qu'ailleurs, deviennent des véhicules pour des batailles idéologiques qui transforment très rapidement la scène médiatique en une lutte féroce, souvent très peu gracieuse, avec des accusations ad hominem, entre diverses publications.
Très polémique.
Très polémique. Et le National n'échappe pas à cette règle. C'est un journal qui est le journal du Parti libéral. Et comme Parti libéral, comme organe du Parti libéral, il défend constamment, que ce soit juste ou que ce soit injuste, les positions du Parti. Et il va descendre en flamme toute personnalité ou toute organisation, toute institution qui est dans le chemin des intérêts du Parti libéral. Et le National est appuyé à ce moment-là par un sénateur qui donne libéral, qui donne l'argent pour enflouer les coffres déficitaires du National. Et le 22 février, donc 1879, le sénateur dit « Je n'ai plus les moyens, c'est terminé, vous ne recevrez plus un sou » et automatiquement, le journal coule. Il ferme ses portes. Mais là, désastre! Tout le Parti libéral se retrouve sans organe pour faire passer ses idées. À l'époque, il n'y a pas une façon alternative de promouvoir son message, de faire la propagande de son opinion. Il n'y a pas Twitter, il n'y a pas la radio, il n'y a pas Facebook, les médias sociaux, la télévision. C'est le journal ou rien. Et donc, on est un samedi et là, c'est la panique dans le petit monde libéral de Montréal. On s'est réunis chez un sénateur, le Rosaire Thibodeau, pour discuter de la chose. Et Beaugrand se propose. Et sans doute que Beaugrand se propose avec, à l'esprit, tout ce qu'il sait du fonctionnement des journaux au Québec et aux États-Unis. Et le lundi suivant, donc on est le 24, deux jours plus tard, va paraître le premier numéro de La Patrie. Donc, en deux jours, Beaugrand a réussi à trouver une presse, à trouver des locaux. Bon, les collaborateurs, c'est à peu près les mêmes que pour le National, mais quand même à se monter une équipe et à faire paraître La Patrie. Et tout le monde est convaincu, parce qu'on sait la réalité de l'univers médiatique, tout le monde est convaincu qu'en très peu de temps, quelques semaines, peut-être quelques mois, l'entreprise va péricliter. Et comme tous les autres journaux de Beaugrand, La Patrie va finir au cimetière des idées. Beaugrand a vendu le fédéral, l'Écho du Canada, la République. Il a derrière lui plusieurs publications qui ont plus ou moins bien réussi. Et on est convaincu que celle-ci ne fera pas mieux que les autres. Et ça va être l'étonnement général de voir que la patrie non seulement fait ses frais, mais prospère. Beaugrand fait, grâce à la patrie, dans les premières années, 10 000 $ de profit net. C'est colossal. C'est une véritable mine d'or. Et la raison pour laquelle il réussit à en faire une entreprise aussi succès, avec autant de succès, c'est qu'il a perfectionné l'art de la publicité. Et ça, il l'a appris lorsqu'il résidait à Fall River ou dans d'autres villes américaines. 40 % de la patrie, qui est pourtant un journal d'idées, un journal d'opinion, 40 % de la patrie, c'est de la pub. Et donc, il va aller cogner aux portes, homme d'affaires lui-même, libéral lui-même, aux portes des entrepreneurs les mieux établis, les plus prospères de la ville, et va leur demander des annonces qui vont assurer donc la réussite de sa publication.
Mais on est presque étonné, puisqu'étant donné le pouvoir qu'avaient les conservateurs et même les ultramontains, et étant donné la réputation de rouge qu'avait Beaugrand, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une sorte de campagne de boycott qui soit lancée contre ceux qui annonçaient dans son journal.
En fait, on s'aperçoit donc que la patrie a 8 000 lecteurs. C'est énorme, c'est stupéfiant. 8 000 lecteurs, et ces gens-là, non, sont plutôt fidèles à cette publication, la soutiennent mordicus contre vent et marée, et seulement peut-être dans certains villages, là où on est davantage surveillé par son curé, résiste aux appels à se désabonner de la patrie. Il va réussir à faire de la patrie un organe avec une énorme influence à travers Montréal, mais aussi à travers la province et même au-delà, parce qu'il livre sa publication jusque dans certaines villes américaines.
Donc, c'est ce qui fait l'intérêt de ce journal, c'est-à-dire que ce n'est pas un journal qui est complètement calqué sur la position du parti. C'est un journal qui développe sa propre indépendance, ses idées. Mais justement, quel sera son rapport avec un personnage comme, par exemple, Honoré Mercier, qui devient chef du Parti libéral au début des années 1880, ou un Wilfrid Laurier, qui sera lui aussi un grand chef libéral un peu plus tard? Comment se positionne-t-il par rapport à ces... Je vous donne ces deux exemples parce que c'est deux personnages très importants et influents.
Dans la patrie, il y a plusieurs choses. Une des choses qu'on néglige peut-être le plus et qui est, paradoxalement, une des plus importantes, il y a un feuilleton. Et le feuilleton, il est très suivi. Et parce que la patrie est riche, elle peut s'acheter les meilleurs feuilletons qui paraissent en France et les rapatrier pour les publier dans le quotidien. Les gens achètent la patrie aussi parce que c'est une lecture plaisante. Il n'y a pas beaucoup de fautes. Hein. En tout cas, l'écriture est un peu plus soignée que pour d'autres journaux de l'époque. Les opinions sont présentées souvent pour ce qui est de la page commerciale, la page économique, de manière sobre, objective. Et il y a une petite section donc, dans le journal qui est réservée davantage pour les éditoriaux, où là, le rougisme de Beaugrand montre davantage la tête. Donc, pour qui lit le journal, il y a aussi des intérêts qui sont au-delà de simplement l'appartenance partisane. Mais lorsqu'on lit l'éditorial, on s'aperçoit que les idées de Beaugrand sont tranchées et qu'elles campent résolument à la gauche de son propre parti. Et ça va engendrer plusieurs frictions. Avec Wilfrid Laurier, curieusement, assez peu. D'abord parce que sans doute ils étaient des amis de longue date. Ils s'étaient connus au moment où Beaugrand fréquentait l'Institut canadien français, l'Institut canadien, avant de quitter pour le Mexique. Et donc, il y avait sans doute une espèce de relation cordiale qui s'était bâtie au fil des années. Mais avec Honoré Mercier, c'est la lutte à mort. Et Beaugrand ne peut pas lui pardonner ce qu'il voit comme des compromission. Mercier, dit-il, est un homme de pouvoir, un homme qui va tout sacrifier de ses idées, de ses principes pour arriver au dernier échelon du gouvernement provincial. Il n'a, selon lui, nul autre mobile que son enrichissement personnel. Et donc, il y a très, très peu d'atomes crochus entre les deux hommes. Ils vont, à certains moments, enterrer la hache de guerre pour le bien de la cause du Parti libéral. Mais on sent constamment qu'il y a cette tension qui existe entre les deux hommes. Et à la première occasion où Honoré Mercier va faillir, va sombrer dans quelques scandales, Beaugrand va rappeler qu'il avait toujours dit que cet homme n'était pas digne de confiance.
la tension, vous avez dit que ça va s'envenimer entre les libéraux et les ultramontains. On va abolir le ministère d'instruction publique en 1875. Les ultramontains sont vraiment très forts. Vous racontez une anecdote incroyable. C'est pas juste une lutte d'idées, là. Ça, on en vient au coup. Vous racontez une anecdote avec Louis Fréchette. Pourriez-vous peut-être nous la rappeler? Elle est drôle, mais en même temps, elle illustre cette tension.
Alors, Joseph Tassé était l'éditeur de La Minerve. Elle avait laissé passer dans son journal une médisance sur la famille de Fréchette, de Louis Fréchette, le poète.
Qui était un ami de Beau.
Qui était un ami et un collaborateur de La Patrie. Et Fréchette, lisant cela dans le journal, ne pouvant pas laisser passer l'insulte, va aller au marchand de fouet pour acheter un air de bœuf et va se planter devant les bureaux de La Minerve en attendant que Joseph Tassé en sorte pour pouvoir lui donner une correction. Et Tassé, voyant donc Fréchette qui l'attend au coin de la rue, a une peur bleue, n'ose plus sortir, refuse de manger tellement il est terrorisé, va s'éterrer dans son immeuble jusqu'à tard dans la nuit et finalement, de guerre lasse, Fréchette va aller rejoindre ses amis qui sont au pub juste à côté pour aller prendre une bière et se moquer du pauvre Tassé. Ça montre quand même que les esprits sont assez échauffés. Beaugrand lui-même, à un moment donné, va se faire attaquer par un lecteur parce qu'il aurait laissé filer dans son journal un article injurieux pour le père de ce lecteur en question. Donc, il y a beaucoup de tensions qui vont aller jusqu'à des violences physiques, des agressions dans la rue. Mais on peut dire que c'est le ton général des journaux de l'époque qui est déplorable. On s'accuse des pires vacheries, on va dire les pires mensonges, les pires calomnies, on va détruire des réputations. Et Beaugrand lui-même, des fois, bon, se laisse aller, mais généralement résiste à cette tentation et décide d'imposer une éthique journalistique qui respecte certains critères. Il va essayer de bâtir d'ailleurs des associations de journalistes lorsqu'il était aux États-Unis, puis ensuite de ça, lorsqu'il va être revenu à Montréal, pour essayer d'assainir un peu les mœurs dans le monde des journaux.
Le temps file. Parlons tout de suite de son aventure à la mairie de Montréal. Donc, comment devient-il maire de Montréal, lui qui a les idées qu'on connaît? Comment devient-il maire de Montréal? Les mauvaises langues disent qu'il est un usurpateur, qu'il est le maire des Anglais. D'où viennent ces accusations? Parlez-nous de sa conquête de la mairie.
Pour se présenter à la mairie à l'époque...
À l'époque, on est élu un maire un an, hein,
on
à la fois.
Un an, et on l'élit, il faut le rappeler, à main levée. Hein, il n'y a pas de vote secret encore. Et donc, pour se présenter à la mairie, comme à peu près à n'importe quel poste électif, il faut de l'argent, il faut payer. Il faut payer ce que Beaugrand appelle le petit lait électoral, c'est-à-dire le whisky. Il faut saouler les gens jusqu'à temps qu'ils acceptent de voter pour sa candidature. Et donc, ça prend quand même des sous et des moyens. Et tout le monde est convaincu que quiconque va se présenter contre le maire qui se représente à ce moment-là, Baudry, quiconque va se présenter contre le maire Baudry est condamné à la défaite. Ça fait 10 ans, 10 mandats que fait Baudry. Il est considéré comme invincible. Beaugrand se fait approcher par quelques amis et lorsqu'il voit qu'aucune candidature anglophone ne fait compétition à celle de Baudry, décide de se présenter lui-même. Il devient donc de facto un peu le candidat des anglophones. Et c'est vrai qu'il est plus facile pour lui d'être agréé comme candidat des anglophones, d'abord parce qu'il ne fréquente pas l'Église, donc il n'y a pas ce fossé qui existe entre les catholiques et les protestants, mais surtout parce qu'il a marié une anglophone, une américaine, et que sa fille fréquente une école protestante anglophone. Il est plutôt bien intégré dans les réseaux anglo-saxons. Et donc, lorsqu'il se présente à la mairie, plusieurs francophones libéraux se rangent derrière lui, mais plusieurs conservateurs anglophones aussi vont passer outre au fait que c'est un libéral, pour voter pour quelqu'un qui, contrairement à Baudry, ne penche pas toujours un peu trop ouvertement vers les intérêts des francophones catholiques. Et c'est ainsi que sa candidature va réussir à passer. Il va perdre dans les quartiers francophones, mais il va gagner et gagner massivement dans les quartiers anglophones.
Et là, on retient en 1885, on parle toujours de Louis Riel, mais on parle peu de cette épidémie de variole, et ça, c'est le grand défi de son mandat, qui non seulement ravage la population, quoi, c'est autour de 3 000 morts.
Oui, pour Montréal, 5 000 pour le Québec.
Bon, mais qui déchire la population autour des moyens pour y remédier. Racontez-nous rapidement.
Alors,
Et son rôle à Beaugrand?
C'est 5 000 morts, 90 % de Canadiens français. Donc, c'est vraiment une épidémie qui frappe durement la population canadienne-française. Et si elle frappe durement la population canadienne-française, c'est parce que celle-ci résiste davantage à la vaccination. C'est vrai qu'à l'époque, la vaccination, sans être une invention nouvelle, ça fait 75 ans que ça existe, mais sans être une invention nouvelle, ça va à contre-sens de ce que les gens peuvent penser que devrait être une guérison, une cure. Pourquoi? Parce qu'on donne la maladie pour guérir la personne. Donc, c'est un peu à contresens de ce que les gens peuvent croire à l'époque. Et ensuite aussi parce que les catholiques, plus que d'autres, ont une espèce de fatalité. On le voit dans les journaux, on le voit dans les déclarations de l'époque. Si c'est l'heure pour que Dieu vienne te chercher...
Une sorte de résignation.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est la Providence qui choisit, qui vit et qui décède. Et donc, les Canadiens français vont se prémunir moins contre la maladie et Beaugrand va être obligé d'intervenir. Et il va intervenir, à un moment donné, même le pistolet à la main. Il va, il va y avoir des émeutes, on va saccager des pharmacies, on va même faire le siège de l'hôtel de ville avec des menaces de mort contre le maire Beaugrand. Ça va quand même jouer à très, très, très dur. Et Beaugrand va se ranger, dit-on, c'est dans l'esprit de la population, il va se ranger du côté des Anglais, des vaccinophiles, contre sa propre nation. Donc, il va être cette idée d'un Beaugrand traître à sa race. Et il y a ce conflit qui s'envenime, les choses deviennent très, très, très dures, très violentes. Et puis, Dieu merci, c'est l'hiver, la maladie se propage un peu plus difficilement dans les moments où c'est plus froid. Et tranquillement, les choses vont se résorber. Et la vaccination, d'ailleurs encouragée par l'évêque de Montréal, la vaccination va finir par faire son œuvre. Donc, dans l'année 1885, on a l'image d'un Beaugrand qui est plutôt rangé du côté des intérêts des anglophones de la ville. Mais ce qui va changer un peu l'opinion qu'on a de Beaugrand, c'est qu'il va y avoir au même moment l'affaire Riel que vous avez mentionnée. Donc, la pendaison de Louis Riel, qui s'est rébellé pour la deuxième fois dans l'Ouest, donc la rébellion des Métis. Et là, Beaugrand va se ranger totalement du côté de Riel, totalement du côté des intérêts, on va dire, de la nation canadienne-française, dans la perception qu'on en a. Et il le fait d'abord parce que, effectivement, c'est un grand nationaliste, il n'y a pas de doute, mais aussi parce que le gouvernement qui a pendu Riel, c'est un gouvernement conservateur. Donc, ça fait bien son affaire et il peut se donner à cœur joie dans ses journaux pour vilipender, pour fustiger ce qu'on appelle les pandards qui sont à Ottawa.
Alors vous dites qu'il était censé de prendre la parole au Champ de Mars.
Oui,
mais il était grippé ce jour-là.
Le 22
Sinon,
novembre,
il aurait parlé en tant que maire de Montréal.
Et en fait, il était affecté par l'asthme. On n'a pas parlé encore, mais c'est un grand malade. Mm-hmm. À ce moment-là, plus que jamais, la maladie se déclare et empêche Beaugrand d'exercer convenablement son métier de maire. Mm-hmm. Il va se retirer à plusieurs reprises. Il va être obligé de rester chez lui. Il va être obligé aussi régulièrement de partir de Montréal pour aller faire des cures dans des régions plus tempérées. Et donc, ce jour-là, il ne peut pas sortir de chez lui. Il est pris par des toussotements là, qui n'arrêtent pas. Mais il aurait parlé, il a écrit une lettre qui a été lue au moment de la manifestation qui réunit 40 000 personnes. Donc, on a cette image un peu contrastée, un peu ambivalente de Beaugrand à la fin de cette année tumultueuse 1885. Mais ce qui compte, c'est que lorsque la nation canadienne-française a été menacée, Beaugrand s'est rangé avec les siens. Et pour les anglophones, ce qui compte, c'est lorsque les affaires ont été menacées, parce que la variole, on ne l'a pas dit, mais la variole fait en sorte qu'il n'y a plus de touristes qui se rendent à Montréal. Ça fait en sorte que les gens ne veulent plus acheter des cigares de Montréal, des chaussures de Montréal, des vêtements de Montréal. La province de Québec est presque mise en quarantaine pendant plusieurs mois. Lorsque les intérêts commerciaux, industriels de la ville ont été menacés, Beaugrand s'est rangé du côté des intérêts supérieurs de l'économie. Et donc, les anglophones, en mars 1886, au moment de sa réélection, vont lui pardonner d'avoir été pro-Riel, et les francophones vont lui pardonner aussi d'avoir été pro-vaccination.
Alors, parlons maintenant du bourgeois qu'il a été, qu'il est devenu par le succès du journal La Patrie. Parlez-nous un peu, justement, de sa vie. Parlez-nous de sa femme un peu. Vous dites que sa maison était un carrefour de rencontres.
Eliza Walker, on a très peu d'informations sur elle. Il nous reste une photographie seulement et quelques petits renseignements là, qui sont éparpillés dans les journaux du 19e siècle, mais on sait qu'elle a été centrale. On ne peut pas avoir de succès dans le monde des affaires et certainement pas de succès dans le monde politique à l'époque sans avoir une bonne hôtesse, mm-hmm. une personne qui reçoit, qui organise des banquets, qui organise des soirées. Et Eliza Walker est passée maître pour faire en sorte que les gens passent un beau temps, du bon temps lorsqu'ils vont visiter les Beaugrand. Les soirées sont somptueuses. Beaugrand est extrêmement riche. Il a d'abord une immense maison sur la rue Saint-Hubert qu'il va vendre pour acheter une mansion presque sur la rue Sherbrooke, qui est à l'époque la rue des millionnaires, avant de s'établir à la toute fin de sa vie à Westmount. Et lorsqu'il organise des petites soirées chez lui, eh bien, c'est dans le grand luxe. Les menus, parce qu'on a les menus que l'on sert aux convives, les menus sont inouïs. De la soupe de tortue, des filets de perdreau, du sanglier, des homards mayonnaise. La même soirée, là, hein, c'est des vins services. Et on ne boit avec Beaugrand que du champagne. Il n'accepte de boire rien d'autre que du champagne. Et donc, partout où il est, hein, c'est toujours du Beaugrand, du champagne qu'on doit, du champagne qu'on doit lui servir. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément réussi. Les bureaux de la patrie, qui vont être des nouveaux bureaux, qui vont faire construire sur mesure pour accueillir ses presses et sa salle de rédaction, sont tellement beaux que lorsque Wilfrid Laurier les visite en 1884, il dit, ça prend, il faut les voir, il faut le voir pour le croire, mais même avec ses yeux, j'ai de la misère à me dire que c'est vrai, qu'un journal libéral, en 1884, à Montréal, puisse connaître une telle prospérité. Et donc, Beaugrand va s'établir, oui, comme un bourgeois qui aime le confort, qui aime les loisirs, qui passe beaucoup de temps, d'ailleurs, chez soi, le home sweet home des Victoriens, en compagnie de sa fille unique, qu'il gâte parce qu'il l'aime beaucoup et il passe beaucoup d'heures avec elle.
Et il court après les reconnaissances. Vous insistez sur vous montrer à quel point il souhaite avoir des médailles, notamment la Légion d'honneur. Il n'est pas le seul Canadien français comme ça à l'époque.
C'est un démocrate à tout craint et qui pourtant est fasciné par les médailles, est fasciné par les rubans. Il ne peut en avoir assez. Alors, il est toujours paré comme un arbre de Noël lorsqu'il reçoit les dignitaires. Il est insatiable dès qu'il a la Légion d'honneur. Ben, il veut toujours monter dans les échelons jusqu'à temps qu'il ait la Grande Croix, qu'il n'obtiendra malheureusement pas pour lui. Et on raconte, juste pour vous donner une illustration de jusqu'où va sa passion des médailles, il va jusqu'à demander à ce qu'un peintre fasse un portrait de lui avec toutes ses décorations. Et chaque fois qu'il reçoit une nouvelle médaille, il appelle le peintre pour qu'il vienne chez lui et la rajoute sur le tableau. Donc, il y a vraiment chez lui cette idée...
C'est une œuvre inachevée.
Il y a vraiment cette idée chez lui que cette reconnaissance est quelque chose d'essentiel pour bien marquer son succès.
Il va aussi se faire éditeur. Il va notamment publier... Chasse-galerie et d'autres récits, il se fera éditeur à la fin.
Alors, contrairement à beaucoup d'écrivains, même d'aujourd'hui, Beaugrand dit qu'il n'a pas de difficulté à convaincre son éditeur de publier ses livres, parce que c'est nul autre que lui-même. Et il publie des livres qui sont magnifiques, qui sont extrêmement bien soignés, d'une qualité à peu près inégalée au 19e siècle, avec des illustrations des meilleurs dessinateurs de son temps. Et il va publier ses récits de voyage, il va publier des conférences qu'il a données, il va publier, bien entendu, Jeanne la fileuse, il va publier aussi des contes, hein, parmi les meilleurs contes, d'ailleurs, de son époque. Il voulait publier deux autres romans. Malheureusement, ces romans ont été perdus. Mais donc, il avait vraiment cette idée que dans ses temps de loisirs, qu'il laissait notamment le fait qu'il devait s'éloigner de son journal pour cause de maladie, dans ses moments de loisirs, il pouvait s'adonner à l'écriture et donc un peu réaliser son rêve de devenir écrivain un jour.
Vous dites, ses récits de voyage, c'est un voyageur presque compulsif, là. Il voyage énormément. Et en 1891, dites-vous, il rencontre le président français en personne, Félix Faure. Pourtant, il n'est plus maire de Montréal, il n'y a plus de fonction officielle. Il rencontre même un ex-président américain, mais il a des réseaux. Est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Comment expliquer ces réseaux assez étonnants?
En fait, il a sur sa carte de visite quand même des titres qui sont
qui en jette.
Oui, qui en jette. Ils sont assez remarquables. Et c'est un ex-maire de la plus grande ville du Dominion du Canada. C'est quelqu'un qui a reçu donc la Légion d'honneur. Il a été décoré de la Croix du Mexique. C'est quelqu'un aussi qui est un très bon causeur. On oublie ça, mais c'est quelqu'un avec énormément de charisme. D'ailleurs, il s'appelait Beaugrand, hein, mais c'est une coïncidence. Il était très beau et très grand. Et ça aidait beaucoup à le distinguer dans les salons. C'est quelqu'un donc qui avait le verbe facile, qui avait aussi toutes sortes d'anecdotes à raconter. Il avait une vie bien remplie. Et donc, c'était quelqu'un qu'on aimait accueillir, oui, dans les salons. Et c'est quelqu'un aussi qui aimait beaucoup voyager, rencontrer des gens. Vous avez dit que c'était... quelqu'un qui avait la passion des voyages, il a fait 82 fois la traversée de l'Atlantique. 82 fois! Même pour aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu fabuleux.
Alors, écoutez, en terminant, il a une fin rapidement un peu désabusée, vous dites. Comment meurt un franc-maçon?
Incinéré, ce qui, à l'époque, est un scandale.
Oui.
Et il va jusqu'au dernier moment, il est agonisant, il a de la misère à respirer, il prend de l'opium, il délire, mais il tient mordicus à ce que son testament soit respecté à la lettre et qu'il ne soit pas enterré dans un cimetière catholique. Et il fait bien d'être méfiant parce que son beau-fils complote, manigance, juste après sa mort, pour faire annuler son testament. Mais finalement, on va être fidèle à sa dernière volonté, il va être incinéré, ce qui, à l'époque, passe pour sacrilège aux yeux de l'Église qui croit à la réincarnation des corps. Et c'est vraiment un message virulent, tonitruant, donné par Beaugrand par-delà la mort. C'est vraiment cette idée de faire scandale jusque dans la mort. Il a été fidèle à ses convictions jusqu'au bout. Et cette incinération, et puis ensuite sa mise en terre dans un cimetière, le cimetière du Mont-Royal, qui n'est pas protestant, multiconfessionnel, mais qui certainement n'est pas catholique, témoigne un peu de cette volonté de faire.
Même dans la mort, il a fait preuve d'audace.
Oui, 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 même dans la mort.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Poirin.
Merci, M. Védard.
Alors, pour découvrir la vie fascinante d'Honoré Beaugrand, je vous invite vraiment à lire la biographie de Jean-Philippe Poirin, Honoré Beaugrand, La plume et l'épée. Bravo, beau titre, ça le décrit bien. Il y a aussi collection, même si ce n'est pas un très bon roman, paraît-il, je vous le présente quand même, Jeanne la fileuse. Et vous avez, dans la bibliothèque du Nouveau Monde, vous avez vanté l'édition critique de François Ricard, qui présente bien l'œuvre, donc La chasse-galerie, et autres récits. Donc, merci beaucoup et à bientôt.